Elle est revenue en seconde semaine et c'est toujours un plaisir de la retrouver. Bonjour Martha Serra.
Bonjour Philippe.
Et bonjour à Philippe Meunier et Diego Rabal.
Bonjour Philippe Tubercas,
bonjour Diego Rabal.
Bonjour Martha.
Bonjour Philippe et Diego.
J'ai commencé d'abord par Martha, parce que ça fait plaisir de la retrouver.
Ouais, on n'est pas aussi sur l'Erkel, nous, c'est ça que vous voulez
complètement,
dire.
Mais alors totalement, on ne va pas se disputer là-dessus. Les éditions Passiflore sont avec nous. Martha Serra donc est là. Et vous avez aujourd'hui l'auteur dont on a parlé la semaine dernière.
Tout à fait.
Il est avec nous par téléphone.
Voilà, donc la semaine passée, pour rappeler, on a parlé des éditions Passiflore, qui est une maison d'édition donc, qui se situe à Dax, dans les Landes, capitale donc, de la Chalosse. Donc Martha Serra est à nouveau avec nous. Et on a aujourd'hui l'auteur dont on a parlé la semaine dernière, sur lequel on va faire un focus particulier aujourd'hui au niveau des éditions Passiflore. Je veux parler de Jean Darrot, D-A-R-O-T pour les auditrices et les auditeurs donc, qui vont chercher l'auteur sur Internet, pour deux de ses romans. Le premier qu'il a fait paraître sous le pseudonyme de Violette Ayot, mais on en reparlera tout à l'heure, donc pseudonyme de Jean Darrot, donc L'homme semence, et le deuxième, donc L'enfant Don. Bonjour Jean Darrot.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci à Martha d'être revenue avec nous donc, de Dax pour faire cette deuxième émission avec nous. On va commencer par L'homme semence. Donc je vais lire dans le catalogue donc, que j'ai sous les yeux des éditions Passiflore, catalogue 2023. Donc la petite quatrième de couverture de ce roman, sachant qu'il est d'abord paru aux éditions Parole, dont vous êtes le créateur.
Oui, tout à fait.
Voilà, et le dirigeant, donc, aujourd'hui. Et on va parler après. Et le créateur, pardon, et pas le dirigeant aujourd'hui. Elle me fait signe que non. Donc, Martha, merci. J'allais dire une bêtise. Donc, sur L'homme semence, je vais lire la quatrième de couverture. En 1852, Violette Ayot est en âge de se marier quand son village des Basses-Alpes est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851. Il s'écoule plus de 2 ans avant qu'un homme n'apparaisse. Et l'histoire de ce roman, L'homme semence, ce sont ces femmes qui d'un seul coup n'ont plus un seul homme dans le village et qui se disent que le jour où il y aura un homme qui surviendra, il faudra effectivement que le ventre des femmes continue à fonctionner et que cet homme-là puisse effectivement ensemencer toutes ces femmes. Vous avez écrit, Jean Darrot, ce roman sous le pseudonyme de Violette Ayot. Et pendant des années, on a pensé que c'était une femme qui l'avait écrit. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, c'est très simple, en fait. C'est un choix d'éditeur pour combler un besoin. Vous savez, la nature humaine, dès qu'il y a un besoin, elle invente quelque chose. Donc là, j'étais éditeur et puis on crée une collection qui était, je dirais, consacrée aux écrits de femmes, qui s'appelait « Mains de femmes ». Et puis, on a un premier titre, on crée cette collection parce qu'on reçoit un très beau titre qui s'appelle « Rouge comme un cœur dans la bouche de Dieu » d'Isabelle Hasbrouck. Et on publie ce premier titre. Et puis, les mois passaient et on n'arrivait pas à trouver un second titre intéressant qui puisse faire la suite de la collection. Et pour qu'il y ait une collection, il faut quand même qu'il y ait au moins 2 titres. Une collection avec un seul titre, ce n'est pas vraiment une collection. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça ne va pas aller, il faut absolument que j'écrive quelque chose pour faire un second titre, c'est ce que j'ai fait. Et donc, comme je baignais dans l'anniversaire de ce soulèvement républicain, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette affaire du soulèvement républicain, on connaît beaucoup en France l'histoire de la Commune de Paris.
En 1870, oui, tout à fait.
Voilà. 20 ans avant, on a, en 1848, un monsieur qui est élu président de la République au suffrage universel des hommes, je précise, et puis qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, il est élu non pas parce que c'est quelqu'un de recommandable, c'est plutôt quelqu'un d'extrême droite qui est, je dirais, clérical, royaliste, etc., et du Parti de l'Ordre. Et puis, cet homme-là, bon, il est élu, mais il n'a le droit qu'à un seul mandat. Et donc, vers la fin du mandat, le Parti de l'Ordre décide de faire un coup d'État, et ce Louis-Napoléon Bonaparte deviendra Napoléon III. Voilà. Mais un peu partout, les gens essayent de sauver la République, de la défendre, hein, puisque c'est dans la loi, on doit défendre la République, c'est ce qu'ont fait les résistants en 1940. Et à ce moment-là, il y a une répression terrible qui est mise en place, qui va emmener des gens jusqu'à Cayenne. C'est eux qui construisent le bagne de Cayenne, qui accueillera 20 ans plus tard les communards. Et puis, beaucoup sont déportés en Algérie en particulier. Voilà.
Alors, ça, c'était pour donc L'Homme Semence, hein, qu'on recommande vraiment de lire. Hein. Donc, vous le disiez à l'instant, il a été publié d'une part donc par les éditions Parole. Et ensuite, aujourd'hui, il est également distribué, il est également dans le catalogue.
Oui,
des éditions Passiflore,
Martha. Puisqu'il vient, il vient de paraître aux éditions Passiflore, alors dans un format un peu plus grand et enrichi d'un avant-propos où Jean explique ce besoin éditorial, mais aussi ce besoin d'exprimer sa part féminine, n'est-ce pas, Jean ?
Oui, oui, tout à fait. Bon, donc les éditions Parole disparaissant, il fallait continuer à donner vie à ce. C'est un peu la même histoire que ces femmes dans ce village. Il faut continuer, il faut que la vie continue. Et ce livre, pour qu'il continue à vivre, eh ben, il a été adopté par les éditions Passiflore. Et ça, je les remercie.
Alors, donc L'Homme Semence, hein, c'est vraiment un roman qu'on recommande de lire. Alors, moi que j'ai lu, bien évidemment, et vraiment, je me suis régalé. Et je l'avais acheté, si je me souviens bien, d'ailleurs, c'était lors du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre. Ça devait être il y a 2 ans, je pense, lorsque j'étais venu à Bagnères, et je l'avais lu donc d'un coup. Et j'ai lu ensuite, j'ai acheté ensuite, alors avant même l'interview, hein, Jean Darrot, j'ai acheté L'Enfant Don. Oui. Je ne pensais pas que j'allais vous interviewer au moment où je l'ai fait, puis j'ai lu le roman, je n'avais pas fait le lien, à l'époque je l'ignorais entre Violette Ayot et Jean Darrot, je ne savais pas qu'en fait c'était une seule et même personne comme Romain Gary et Émile Ajar, et quand je l'ai lu et puis que j'ai croisé donc, la route de Martha, elle m'a dit mais c'est la même personne, je me suis dit bah, tiens, ça serait intéressant qu'on puisse faire une interview à la fois des éditions Passiflore et à la fois de L'Enfant Don. Alors, je vais lire la quatrième de couve qu'il y a, toujours pareil, hein, dans le catalogue 2023, donc des éditions Passiflore pour L'Enfant Don, donc qui est votre roman Jean Darrot. Au début du XXe siècle, dans une haute vallée pyrénéenne, Sevia, aînée et donc tête d'une maison souche, décide de concevoir un enfant pour l'offrir à une autre femme qui ne peut pas en avoir. En prenant la guerre civile espagnole pour toile de fond, ce récit nous fait découvrir une société montagnarde où la femme bénéficie d'un statut bien particulier. Bien au-delà de sa fonction de mère, celle-ci s'impose comme pilier essentiel et fondateur d'une communauté qui plonge ses racines dans les arbres, les pierres et les légendes enchantées. Alors juste pour revenir sur le début de la quatrième de couve, Jean Darrot, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce qu'était auparavant le droit d'aînesse, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, à l'intérieur des Pyrénées, ce qui a donné donc le titre de votre roman et surtout ce qu'était une maison souche.
Oui, ben alors, ça c'est des choses qui remontent très loin. Ce qu'il faut, c'est à l'occasion, pour les auditeurs, il y a un livre qu'il faut absolument lire qui s'appelle « Femmes dans les Pyrénées » de l'ethnologue Isor Gratacos. Donc Isor Gratacos, pendant plusieurs décennies, elle a recueilli des témoignages sur ce qu'était l'organisation des sociétés des Hautes-Vallées pyrénéennes. Donc, c'est des gens qui vivent de façon un peu isolée, avec des moyens très, très limités, mais par contre, ils répondent de cette façon-là par une grande solidarité. C'est-à-dire que les choses étaient organisées de façon collective. C'est ce que Jean Mallory, qui a beaucoup travaillé sur les Inuits, appelle les sociétés anarcho-collectivistes. C'est-à-dire que plutôt que de se battre les uns contre les autres, on travaille ensemble. Ça, c'est la solidarité, ce que savent beaucoup faire les femmes aussi, y compris dans l'enfant, dans l'homme semence, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, ces gens partagent, exploitent la terre collectivement. C'est surtout des bois, des herbages, ils font de l'élevage et puis ils font du bois. Et donc, on a une société qui est organisée par vallée, et puis on a des maisons qui sont un collectif, c'est-à-dire une famille avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent pour cette maison, les animaux, etc. Et puis on a à chaque fois une responsabilité dans cette maison qui est celle de l'aîné. C'est l'aîné qui devient la tête de maison, et dans ce cas particulier, qu'on soit garçon ou fille. C'est-à-dire, si on est une aînée fille, on prend la tête de la maison quand l'aîné précédent disparaît. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Et par contre, bon, ça a des petits côtés un petit peu compliqués, puisqu'on ne marie jamais deux aînés ensemble. La société bourgeoise s'est construite par accumulation de patrimoine. C'est-à-dire, on marie des gens ensemble qui apportent chacun un patrimoine, et petit à petit, on s'enrichit. Ce qui n'est pas le cas dans cette société, l'objectif est de rester tous à égalité, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les maisons. Ce qui fait qu'on ne marie jamais deux aînés ensemble. On marie un aîné avec une cadette, une aînée avec un cadet. Et à ce moment-là, ça nécessite que les mariages soient arrangés. Et donc, du coup, ces mariages arrangés, ça pose un petit peu de problème pour ce qui est des relations, je dirais, affectives et amoureuses. Mais il y avait une contrepartie, une espèce de liberté plus générale qui était de dire, on disait, l'amour, c'est dans les buis. C'est-à-dire qu'il y avait une relative liberté, je dirais sexuelle même, avec des pratiques qui étaient parfois très libertaires. Hein. Et donc, bah, ces gens ont vécu comme ça pendant longtemps. D'après Isor, il y a des choses qui ont survécu jusque dans les années 1950.
D'accord. Voilà. Et ça, alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est quelque chose, effectivement, là, qu'on apprend au sein de votre livre. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que l'enfant don, c'est autant un roman qu'une histoire ethnologique aussi. Hein, et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous intégrez donc le récit de la guerre civile espagnole. Donc, on va rentrer un peu plus, effectivement, dans votre roman, parce que le but, c'est que cette maison souche, comme vous le disiez, ne meure pas. Et donc, il y a un enfant qui est donné. Et puis, il se trouve bon, que cet enfant, effectivement, qui est donné, bon, vous nous faites découvrir, effectivement, une société montagnarde. Mais c'est comment, à un moment donné, cet enfant est percuté par ce qui se passe en Espagne et qu'il est prêt, effectivement, ben, à partir en Espagne pour se battre aux côtés des républicains, quitte à y mourir par rapport aux valeurs, effectivement, qu'il peut avoir. Et c'est vraiment un roman qui est passionnant parce qu'il lit énormément de choses. Il y a à la fois donc ce qu'était la société pyrénéenne donc dans cette première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 1950, là vous le disiez donc très justement à l'instant, à la fois aussi ce qui a énormément marqué les Pyrénées, hein, puisque on est dans les Hautes-Pyrénées, un département et les Pyrénées-Atlantiques qui est frontalier donc de l'Espagne où la retirada donc a amené donc effectivement beaucoup de monde, hein, c'est le cas de mon compère ici à la radio Diego Arrabal, hein, qui est le fils d'un d'un républicain espagnol, hein, vous confirmez,
exactement,
Diego ?
Exactement, oui, je confirme.
Voilà, qui est le fils donc, d'un républicain donc, espagnol. Et c'est vrai que, bon, nous, ce qu'on aime à Radio Présence, notamment dans l'émission Un jour, un livre, un auteur, c'est parler des livres dont on ne va pas forcément parler partout ailleurs en France. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de nous pour parler des prix littéraires, effectivement, les plus grands prix littéraires, le Goncourt, etc. Je pense qu'il y en a d'autres qui se débrouillent très bien sans nous. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler des livres dont on ne va pas forcément parler, mais qui ont une qualité d'écriture, une qualité d'histoire et une qualité historique qui va être effectivement équivalent à tous les grands romans qu'on pourra trouver au niveau national. Et c'est le cas, effectivement, de ce roman que vous avez écrit, Jean Darrault, donc L'Enfant Don. Moi, je voudrais savoir, par contre, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire à la suite de L'Homme Semence ? Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette histoire, Jean Darrault ?
Alors, bon, cette histoire, c'est d'abord la rencontre avec un livre qui est celui d'Isor Kratakos, de l'ethnologue Isor Kratakos. J'ai lu ça il y a près de 20 ans. Et ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai gardé en moi. Vous savez, il y a des choses dont vous gardez le souvenir en vous qui sont à l'intérieur, qui vous tournent à l'intérieur, et un jour ça ressort. Il y a effectivement plusieurs choses auxquelles je tenais à cœur. Il y a ça, cette organisation sociale qui est différente et qui était une organisation sociale intelligente, on va dire, humaine, égalitaire. Et ça me touche toujours, quoi. Et que la femme puisse avoir sa place comme elle le mérite, ce que n'a pas apporté la Révolution française, bien au contraire, pour moi, ça me tient à cœur. Bon, et puis ensuite, il y a cette affaire d'origine et on a souvent la question se pose très souvent de l'histoire de l'origine. Alors c'est vrai que je fais une pirouette de temps en temps parce que je dis que c'est de la faute de ma mère, parce qu'effectivement on était quatre garçons, hein, plus une fille, et on était quatre garçons particulièrement sages, et quand ma mère était en colère qu'elle n'arrivait plus à maîtriser ses quatre garçons, elle nous disait de toute façon vous n'êtes pas mes enfants, ils ont dû se tromper à la maternité. Alors ça, j'ai trouvé C'est comme si elle m'avait fait un cadeau, en fait, hein, parce que on a parfois des doutes sur d'où on vient de la part du père, mais rarement de la part de la mère. Alors j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit qu'effectivement, il se passait dans nos sociétés, parfois de façon non visible, des glissements d'enfants comme ça. Alors je ne dis pas que ça ne fait pas des drames, mais dans le cas précis, il y a aussi eu ce don, ce cadeau qu'on peut faire à une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Ce que je dis toujours, c'est que si on voit un pot de fleurs avec un petit arbre dedans et qui n'a pas d'eau, on ne va pas le laisser mourir de soif. Hein. Le réflexe, c'est de dire « je lui mets de l'eau ». Est-ce qu'on peut laisser mourir, je dirais, de souffrance un couple voisin dans une communauté où il y a une grande solidarité? Est-ce qu'on peut laisser un couple et une maison mourir sans intervenir? Ben non. Ce que fait Sevia, c'est ça. Elle n'accepte pas que sa voisine, qui est aussi une amie, qui est comme une sœur, c'est aussi une histoire de sororité d'une femme à l'autre, elle ne veut pas laisser... Parce que la souffrance, elle n'est pas simplement dans ce couple. Toute la communauté en souffre. Quand vous avez un membre d'une communauté qui souffre, tout le monde en souffre. Voilà, cette solidarité, elle va loin, quoi.
Elle va très très loin, effectivement, cette solidarité. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce roman, il est aussi sur le fond. Il est publié aujourd'hui sur fond, effectivement, d'une société qui devient de plus en plus individualiste, alors même que là, on est sur des choix qui sont éminemment collectifs. Dites-moi, Martha, quand vous avez reçu ce roman au niveau des éditions Passiflore, pourquoi vous avez décidé de le publier? Qu'est-ce qui vous a incité à le publier?
Alors, on avait beaucoup entendu parler de ce texte, L'enfant don, par un ami commun avec Jean. Et puis, quand on l'a reçu, c'est un texte qui est très court, on ne l'a pas dit à l'antenne, mais il fait 72 pages et comprend une postface, donc d'Isor Gratacos. Et lorsqu'on l'a lu, il faut savoir que dans la maison d'édition, comme je le disais la semaine dernière, on est quatre femmes. Et ce texte nous a immédiatement bouleversés, touchés, parlé à notre sensibilité, forcément. Et c'était évident que ça rentrait dans notre ligne éditoriale, dans ce que nous, on avait à cœur de publier, puisque un texte qui nous plaît, c'est un texte qu'on défendra comme si c'était le nôtre. Et avec l'enfant don, c'est tout à fait le cas. Et puis la rencontre avec Jean a eu lieu et ça a encore plus renforcé notre volonté de publier l'enfant don.
Moi, le sentiment que j'ai, vous voyez, si je devais donner un autre titre, Jean, à votre livre, il y a eu L'homme semence en premier, j'aurais presque dit pour celui-là, L'enfant don, le roman semence. C'est-à-dire, à un moment donné, oui. cette volonté, effectivement, de ne pas laisser mourir une famille, et donc ce roman semence qui raconte comment, à un moment donné, effectivement, on va donner un enfant. Alors, c'est pas se débarrasser, hein. C'est pas ce que vous disiez très justement la semaine dernière, Martha, de la GPA, ça n'a rien à voir avec ça.
Non, c'est pas le sujet.
C'est
voilà.
pas le sujet du tout. C'est simplement, comme vous le disiez très bien, Jean Darrow, comment, à un moment donné, face à la douleur d'une famille qui ne peut pas avoir d'enfant et à la remise en cause d'une maison souche, hein, où on ne va pas pouvoir conserver, donc à un moment donné, la famille en tant que telle. Je vois, par exemple, moi j'habite un petit village, donc dans les Hautes-Pyrénées, il y a une famille, on appelle le propriétaire de la maison non pas par son prénom ou par son nom, mais par le nom de la maison.
Exactement, c'est toujours ça, effectivement. On devient, on adopte le nom de la famille dans laquelle on vient, y compris que si on vient d'une autre famille.
Voilà, et ça, c'est vraiment bien. On rappelle, hein, parce qu'il nous reste une minute, Jean Darrow, on rappelle hein, le titre de votre ouvrage, donc Jean Darrow, L'enfant don, publié donc aux éditions Passiflore avec une postface de l'ethnologue Isor donc, Gratacos,
GRAT. Une très belle postface, vraiment, c'est un cadeau qu'elle a fait. Aussi, c'est un don. Elle a fait une très belle postface, pleine d'amour.
Voilà. Et on rappelle donc aussi votre autre ouvrage que vous avez écrit sous le pseudonyme donc, de Violette Ayot, donc aux éditions Parole, qui a été repris par Passiflore, donc dans la collection Mène Femmes, L'Homme Semence. Moi, je recommande vraiment de lire ces deux ouvrages. Les deux, comme vous l'avez précisé, Martha, sont deux ouvrages très courts.
Oui.
Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, c'est ça qui est bien. Quand ils voient des gros romans, ils se disent « Oh là là, c'est trop gros, je vais pas aimer lire ». Là, on a des romans très courts. Voilà. Donc,
c'est court, mais c'est riche.
Voilà, c'est court, mais c'est riche. Autant en profiter. Merci beaucoup, Martha et Jean, donc, d'avoir partagé à nouveau avec nous aujourd'hui donc, ce moment. Des Guarabales.
On va dire à la semaine prochaine.
On se dit à la semaine prochaine.
On se dit à la semaine prochaine.
Allez, voilà. Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
À la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Merci,
au revoir.